Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci aux musiciens de nous avoir conduits dans ces moments de louange à notre Seigneur. Ce matin, nous allons reprendre notre étude du livre de Josué et nous arrivons au chapitre 13 à 21. C'est une portion un peu longue, mais rassurez-vous, on ne va pas tout lire. Jusqu'ici, nous avons vu un homme ordinaire, Josué, à qui l'Éternel avait confié des tâches non ordinaires, des tâches extraordinaires, qu'il ne pouvait être accompli seulement par la foi. Des tâches où Josué et le peuple n'étaient finalement que des instruments entre les mains du Seigneur. Des tâches où finalement c'était l'Éternel lui-même qui accomplissait la tâche en elle-même. Je pense notamment à la traversée du Jourdain, où au chapitre 3, l'Éternel a séparé les eaux afin que le peuple puisse traverser à pied sec. Je pense également à la prise de la ville de Jéricho, où on s'en souvient, le peuple n'a eu qu'à écouter l'Éternel et à faire le tour de la ville pendant 7 jours, où ils n'ont pas compté sur leur force militaire en elle-même, mais ils ont compté sur la puissance de l'Éternel. Je pense également à la prise de la ville de Haï, avec la bataille juste avant, où premièrement le peuple a voulu y aller par leur propre force, où ils sont montés avec 3000 hommes, et où ça a été une catastrophe monumentale. Ça a été une catastrophe monumentale parce que, eh bien, ils ont compté sur leur propre intelligence. Alors que lorsqu'ils ont écouté l'Éternel, eh bien, la victoire a été facile. Et comment est-ce que la victoire n'aurait pas pu être facile en écoutant le Dieu qui a le pouvoir d'arrêter le ciel, d'arrêter le soleil, pardon, dans le ciel? Comme on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu également la ruse des Gabaonites, où là encore, on voit que le peuple, il n'a pas la force militaire de faire la conquête, mais il n'a pas non plus l'intelligence militaire. Et où les Gabaonites ont prétendu arriver de loin, d'être un peuple qui venait, qui n'était pas de la terre de Canaan, alors qu'en fait, il était de la terre de Canaan. Et les Israélites se sont fait berner. Et ce matin, nous arrivons ensemble donc à cette portion du livre de Josué, à partir du chapitre 13, où là, Josué ne va plus avoir un ministère de miracle, un ministère exceptionnel, mais où l'Éternel va lui confier une tâche bien ordinaire, la tâche de séparer le pays entre les tribus d'Israël. Le ministère exceptionnel de Josué touche à sa fin. Et cela aura pris 7 ans depuis la traversée du Jourdain, depuis l'installation à Gilgal, jusqu'à ce moment-là où l'Éternel demande à Josué de partager le pays. Et en général, lorsque l'on arrive à ce chapitre 13 dans notre lecture, notre engouement pour la lecture de la parole prend un peu de plomb dans l'aile. Et généralement, on a tendance à accélérer un peu. Et effectivement, à bien des moments dans ces chapitres, on a un peu l'impression de se retrouver chez un notaire qui serait en train de nous parler d'une succession. Et il nous parle de détails qui sont très importants, mais des détails au final où on lui dit « oui, oui, monsieur le notaire », mais qui franchement ne nous passionnent pas vraiment. Je trouve cependant que c'est très intéressant de voir que l'Éternel, lui, il se soucie des détails de son peuple. Nous avons un grand Dieu qui s'intéresse effectivement aux moindres détails du peuple qu'il s'est choisi et qu'il aime. Et il s'intéresse également aux moindres détails de chacune de nos vies. Alors, il y a bien trop de détails dans tous ces chapitres pour que l'on voit tout ce matin, mais ce matin, dans une première partie, nous allons revoir et nous allons revenir sur quelques-uns de ces détails. Et dans une seconde partie, nous verrons que le peuple, enfin, s'est saisi des promesses de Dieu. Alors, je vais afficher une carte. J'espère que vous voyez bien. Et donc, le chapitre 13 commence avec ces mots. Josué était vieux. Il était d'un âge avancé. Alors l'Éternel lui dit, « Josué, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé. » C'est beau de voir la franchise de l'Éternel. Ce matin, un jeune frère souhaitait son anniversaire à une dame de l'église. Et il lui dit, « Oh, quel âge est-ce que tu as ?» Je lui ai dit, « Quand même, on ne demande pas ce genre de choses. » Et donc la dame a répondu, « J'ai 25 ans. » Je ne pense pas qu'elle ait 25 ans. Mais on ne saura pas son âge. Le texte dit, « Josué, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qu'il te reste à conquérir est grand. » Le Seigneur dit à Josué, « Par la foi que tu as eue en moi, tu as pu accomplir de grandes choses. Mais il te reste encore beaucoup de choses à accomplir, et ce n'est pas le moment de te reposer. » La mission de Jésus, de Josué évolue, mais elle n'est pas finie. Il ne va plus faire de grandes conquêtes militaires, mais le Seigneur lui confie encore des tâches à faire. Et une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que nous servons un Dieu vivant. Un Dieu qui a fait de grandes choses dans le passé, à travers nos vies et pour nos vies, mais un Dieu qui va également continuer de faire des grandes choses dans le présent et dans l'avenir. Il y a 2 semaines, le pasteur Samuel nous disait que parfois nous pouvons être prisonniers du passé. Et je pense qu'ici, Josué aurait pu être prisonnier du passé s'il s'était contenté de ce que l'Éternel avait fait pour lui dans le passé. Les conquêtes, la traversée du Jourdain, la prise de Jéricho, etc. C'est une bonne chose, évidemment, de se rappeler de ce que l'Éternel a fait dans notre passé, afin d'aller de l'avant, afin de prendre courage en s'appuyant par la foi sur lui. Mais je pense qu'il peut y avoir un danger pour nous d'être prisonniers du passé. Si lorsqu'on nous demande « qu'est-ce que l'Éternel fait dans ta vie ?», ce sont seulement des histoires d'il y a quelques années qui nous viennent en tête. N'oublions pas que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. Et qu'aujourd'hui aussi, il veut faire de grandes choses à travers nous. Alors, ne soyons pas prisonniers du passé, en voyant l'action du Seigneur seulement comme quelque chose de passé, mais soyons prêts à lui obéir aujourd'hui et à discerner sa volonté pour nous, maintenant, afin que nous puissions avancer pour sa gloire. Comme ici, dans le texte, où l'Éternel dit à Josué, en quelque sorte, « Tu as encore du pain sur la planche. » Et bien que Josué soit âgé d'environ 100 ans, le Seigneur n'en a pas fini avec lui. Et effectivement, il n'y a pas de retraite dans le ministère. Il reste beaucoup de pays à conquérir. Mais l'Éternel dit à Josué, au verset 6, donne seulement ce pays en héritage en Israël. Et effectivement, Josué n'a même pas à combattre, n'a même plus à conquérir le pays. Tout ce qu'il a à faire, c'est de partager le pays et l'Éternel, c'est lui qui va se charger de donner ce pays, de faire les batailles à la place du peuple d'Israël. À partir du verset 8, du chapitre 13, jusqu'à la fin du chapitre 21, nous avons donc la répartition de l'héritage que l'Éternel donne aux Israélites sur la terre promise. Le reste du chapitre 13 décrit la séparation donc du territoire à l'est du Jourdain. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir sur la carte, la tribu de Manassé au nord, la demi-tribu de Manassé au nord, Gad et Ruben. Lorsque l'on parle du pays promis, on parle du territoire qui se situe entre la Méditerranée et le Jourdain. On pourrait donc se demander, mais pourquoi les Israélites se sont installés à l'est du Jourdain? Et on peut comprendre cela si on relit le chapitre 32 du livre des Nombres, où après la victoire contre les rois Sion et Og en Galaad, les tribus de Gad et de Ruben qui ont de grands troupeaux constatent que ce pays qui est situé à l'est du Jourdain est un pays fertile et où leurs troupeaux seraient bien. Et du coup, ils demandent à Moïse de recevoir leur part d'héritage à cet endroit-là. Si vous relisez ce chapitre du livre des Nombres, vous verrez que Moïse n'était pas content du tout. Moïse, effectivement, avait peur que si le peuple commençait à s'installer à l'est du Jourdain, cela allait décourager le peuple pour traverser le Jourdain. Du coup, il n'était pas content, il n'était pas tout à fait d'accord, il pensait que le peuple allait être découragé, comme lorsque les 10 espions étaient revenus et avaient découragé le peuple. Mais les Gadites et les Rubénites promettent qu'ils laisseront leurs troupeaux, leurs familles, sur ces terres de Galaad, donc là à l'est du Jourdain, et ils traverseront avec leurs frères pour les aider à conquérir le territoire jusqu'à ce que chacun ait reçu sa part d'héritage. Alors Moïse, à ces conditions, accepte, et je lis dans le chapitre 32 du livre des Nombres, verset 33, « Moïse donna aux Gadites et aux Rubénites, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sihon, le roi des Amoréens, et le royaume de Dog, le roi du Basan. Il leur donna ce pays avec ses villes et les territoires environnants. C'est ainsi que Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé se retrouvent à l'est du Jourdain. » Jacob avait 12 fils et l'aîné, on le sait, devait recevoir une double portion de ce que les autres frères recevaient. On doit donc s'attendre à ce qu'il y ait 13 parts d'héritage. Et si on regarde la carte, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a 13 parts d'héritage. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ce à quoi on pourrait s'attendre. J'ai noté 4 choses qui devraient nous sauter aux yeux sur cette carte. La première, c'est que Ruben, qui était l'aîné, n'a qu'une seule part d'héritage. On ne voit qu'un seul territoire avec le nom de Ruben dessus. La deuxième, c'est que Joseph, qui lui aussi était un fils de Jacob, n'a pas de nom sur la carte. Son nom n'apparaît pas. Et à la place, ce sont ses deux fils, Éphraïm et Manassé, qui apparaissent. La troisième chose, c'est qu'on voit que Manassé reçoit 2 parts, l'une à l'est du Jourdain et l'autre à l'ouest. Et la quatrième, c'est qu'on voit que Lévi, qui était aussi un enfant de Jacob, ne reçoit pas de territoire. Alors pour Ruben, il avait en fait perdu son droit d'aînesse. Et on peut lire ça au chapitre 35, verset 22, où en fait Ruben a couché avec la concubine de son père Jacob, et Jacob l'a appris. Et plus tard, dans le verset 49 de la Genèse, ce chapitre où Jacob va bénir ses enfants et leur donner leur héritage, il est écrit à propos de Ruben, « Toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, » donc Jacob reconnaît bien que Ruben était l'aîné, « impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. » Voilà donc pourquoi Ruben perd son droit d'aînesse et n'obtient pas une double portion. Mais si l'on descend plus loin dans ce chapitre 49 de la Genèse, on voit au verset 26 qu'en fait c'est Joseph qui a récupéré le droit d'aînesse. Il est écrit que les bénédictions reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Et on peut également lire tout ça dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 5, où au début, il est écrit « Ruben était en effet l'aîné, le premier-né d'Israël, mais comme il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné aux fils de Joseph. » C'était donc les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, qui avait le droit d'aînesse. Voilà donc également pourquoi Joseph n'apparaît pas sur la carte, parce qu'il obtient la double portion et ce sont ses deux fils, Manassé et Éphraïm, qui apparaissent sur la carte. Et la raison pour laquelle Manassé reçoit 2 portions, c'est en partie parce que une partie, la demi-tribu de Manassé, avait des troupeaux, probablement, et voulait rester à l'est du Jourdain, alors que les autres ont voulu traverser le Jourdain et recevoir leur part d'héritage sur la terre promise. Et pourquoi Manassé avait le droit à 2 parts d'héritage? Eh bien, la réponse se situe au chapitre 17 du livre de Josué. Au verset 1, il est écrit « Une part fut attribuée par tirage au sort à la tribu de Manassé, donc une part à l'ouest du Jourdain, car il était le fils aîné de Joseph. » Makir, fils aîné de Manassé, et père de Galaad, avait eu Galaad, le Basan, et le Basan, parce qu'il était un homme de guerre. Bon, là, Makir, donc le fils aîné de Manassé, reçoit la partie à l'est, donc c'est ce qui représente la demi-tribu de Manassé. Et on voit ici aussi pourquoi, une des raisons pour laquelle la demi-tribu de Manassé s'est installée à l'est, c'est parce que Makir était un homme de guerre. Et effectivement, cette région à l'est du Jourdain, c'était un peu une région tampon entre le pays promis et les peuples qui auraient pu vouloir venir conquérir le pays d'Israël. C'était donc logique et efficace d'avoir un peuple qui soit prompt à se défendre dans cette région. Et on voit au verset 2 du chapitre 17, « On donna par tirage au sort une part au clan des autres descendants de Manassé. » Les autres descendants, c'est-à-dire ceux qui sont installés dans la région qui correspond à la Samarie, à l'ouest du Jourdain. Ainsi, Joseph obtient une double portion due au fait qu'il reçoit le droit d'aînesse de son père, Jacob, et Manassé obtient lui aussi deux portions, car il est le fils aîné de Joseph. J'ai hésité à sortir mes lunettes ce matin pour faire le notaire, mais je ne l'ai pas fait. Au final, les descendants de Joseph obtiennent donc trois portions, les deux demi-tribus de Manassé en rouge et la tribu d'Éphraïm en vert. Il reste maintenant donc à répondre à la question, mais pourquoi Lévi ne reçoit pas de territoire ? Et on peut voir cela dans le chapitre 34 de la Genèse, où il y a une histoire tragique avec les habitants de Sichem et où Dina, une des filles de Jacob, est violée. Ses frères, donc Adina, sont naturellement très en colère et ils vont ruser avec les habitants de Sichem qui, eux, voudraient assimiler le peuple d'Israël à la ville de Sichem. Ils voudraient se marier avec les filles des Israélites et ils voudraient donner leurs filles à eux, aux Israélites, comme épouses. Alors les fils de Jacob rusent et leur disent « Mais nous ne pouvons pas donner nos filles à des hommes qui ne sont pas circoncis. » Alors les habitants de Sichem disent « Pas de problème, on va se faire circoncire. » Seulement, à l'époque, il n'y avait pas toute la médecine comme maintenant. Et le fait de se faire circoncire, ça les laissait faibles pendant plusieurs jours. Et je lis au verset 25 du chapitre 34 de la Genèse. Trois jours plus tard, donc trois jours après leur circoncision, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, deux des fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. C'est donc à cause de cet épisode que lorsque Jacob donne sa bénédiction à ses fils dans ce fameux chapitre 49 de la Genèse, il dit au verset 5 à 7, « Siméon et Lévi sont frères, leurs épées sont des instruments de violence, je ne veux pas participer à leur conciliabule, je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes et pour suivre leur désir, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. » Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Et Lévi, effectivement, est dispersé dans Israël. Mais le Seigneur est bon. Et il transforme cette malédiction de Lévi en bénédiction pour le peuple. Car les Lévites vont recevoir 48 villes qui vont être à l'intérieur des autres tribus. Ils ne vont pas recevoir une part à part du pays, et on sait que ces Lévites vont servir le peuple comme prêtres. Ils vont leur enseigner la loi de Moïse, ils vont les encourager à la suivre. Et c'était eux notamment aussi qui pratiquaient les sacrifices. Si vous voulez voir le détail sur ces 48 villes que Josué va donner aux Lévites, vous pourrez lire le chapitre 21. Siméon également est dispersé, vous l'aurez remarqué, il associe Siméon et Lévi. Mais Siméon n'est pas dispersé de la même manière. On voit au chapitre 19, et on le voit sur la carte, Siméon reçoit son héritage enclavé dans Juda. Si bien qu'au fil des siècles, ils vont perdre leur identité. Ils vont être assimilés par Juda et vont se disperser également dans les autres tribus au nord. Si bien qu'après la séparation du royaume, du nord et celui du sud, on comprend traditionnellement qu'il y a 10 tribus au nord et 2 tribus au sud, Benjamin et Juda. Et l'on n'entend quasiment plus parler de la tribu de Siméon. On voit au chapitre 15 les délimitations du territoire accordé à Juda. Au chapitre 16, le territoire accordé à Éphraïm. Au chapitre 17, le territoire accordé à la demi-tribu de Manassé, comme on en a déjà parlé. Au chapitre 18, le territoire accordé à Benjamin. Et au chapitre 19, le territoire accordé aux 6 dernières tribus. Siméon, comme on vient de le voir, mais aussi Zabulon, Issachar, Aser, Nephtali et Dan. Chapitre 20, quant à lui, parle de 6 villes refuges réparties dans tout le royaume, de sorte que personne ne se trouvait à plus d'une journée de marche de ces villes. Ces villes étaient en fait des refuges pour les personnes qui avaient commis des homicides involontaires. Alors, par exemple, si deux hommes s'étaient battus et que il y en avait un qui était tombé et qui, par accident, était mort, il avait le droit de se réfugier dans une de ces villes en attendant un procès juste et équitable. Et les frères de celui qui était mort n'avaient pas le droit de se venger de lui, de faire retomber son sang sur sa tête tant qu'il était dans une de ces villes. S'il sortait de la ville, c'est lui qui voyait. Et tant qu'il était dans la ville, il avait le droit à un procès juste et équitable. Et à la fin du chapitre 21, les versets 43 à 45, on peut y lire « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, et toutes s'accomplirent. » Ce qui nous amène à notre point numéro 2 pour ce matin. Le peuple s'est enfin saisi des promesses de Dieu. On remarque effectivement ici, dans ce court texte que je viens de lire, que l'Éternel leur donne le pays qu'il avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ils en ont fait la conquête, ils l'ont divisé entre eux, comme on a vu ce matin. Mais on voit également qu'ils en ont pris possession et qu'ils s'y sont installés. Et ce n'est pas exactement la même chose. Après tout, vous pouvez très bien recevoir une maison en héritage et décider de ne jamais y vivre. Il y a effectivement une différence entre recevoir un cadeau et se saisir de ce cadeau. Je pense que je me rappellerai toujours une des scènes d'un des films de mon enfance qui s'appelle « Maman, j'ai encore raté l'avion » où le jeune protagoniste Kevin rencontre dans Central Park un soir une vieille dame avec qui il se lie d'amitié. Et un soir, alors qu'ils sont en train d'écouter de la musique classique dans une salle de concert, Kevin partage avec cette dame qu'à un Noël, il avait reçu une paire de rollers. Mais que Kevin, il avait décidé de ne jamais porter cette paire de rollers parce qu'il avait eu peur de les abîmer. Il les avait jamais sortis de la boîte. Kevin ne s'est jamais saisi du cadeau qui lui avait été fait. Ses parents lui avaient offert le cadeau. Mais c'était à lui de s'en servir. C'était à lui d'utiliser ce cadeau. Il avait les rollers entre les mains, ils étaient à lui. Mais s'il voulait ne pas se servir de ce cadeau, ce n'était pas la faute de celui qui avait fait le cadeau. Celui qui a fait le cadeau ne pouvait pas l'obliger à s'en saisir. Il fallait qu'il se saisisse de ce cadeau, il fallait qu'en quelque sorte sa vie soit impactée par ce cadeau. Et ça, c'était son choix. La personne qui lui a fait le cadeau ne pouvait pas le forcer à en jouir. Et parce que Kevin a eu peur, il ne s'est jamais vraiment saisi du cadeau qui lui avait été fait. Et dans ce texte, à la fin du livre de Josué, on voit que enfin les Israélites se sont saisis de ce cadeau que l'Éternel leur faisait. Et ici, le cadeau de l'Éternel pour ces Israélites, il est bien plus précieux qu'une simple paire de rollers. Il faut bien réaliser que depuis les tout débuts de ce peuple, depuis que l'Éternel avait appelé Abraham à sortir de Ur en Chaldée, depuis des siècles, depuis que l'Éternel lui avait promis de faire de lui un grand peuple, de lui donner une terre et du repos, depuis les tout débuts de son existence, ce peuple n'a jamais eu de terre à lui. Ils n'ont jamais eu de repos véritable. Et pendant des siècles, ils ont été nomades, puis esclaves, puis nomades à nouveau pendant 40 ans dans le désert. On se rappelle que 45 ans plus tôt, le peuple avait choisi de ne pas se saisir du cadeau que l'Éternel leur donnait, car ils avaient eu peur et ils n'étaient pas entrés dans leur repos. Mais l'Éternel a été patient envers eux. Et maintenant, enfin, ils ont déballé le cadeau. C'est-à-dire qu'ils se sont saisis de la terre promise. Ils s'y sont installés. Ils se sont saisis de la promesse de l'Éternel pour eux. Et ils peuvent enfin profiter du cadeau. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus nomades, ils ne sont plus esclaves, ils sont chez eux, à la maison. Et ils peuvent enfin trouver le repos. Lorsque le peuple rentre dans la volonté de son Dieu et s'approprie les promesses de l'Éternel, il peut également rentrer dans son repos. Les promesses de l'Éternel étaient là devant eux, elles ont toujours été devant eux, et ils n'avaient qu'à s'en saisir. Et comme le texte le dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, et toutes s'accomplirent. Encore fallait-il qu'ils s'en saisissent. La semaine dernière, après le concert de la chorale, une dame que je ne connaissais pas très bien est venue me voir en me disant « Bonjour, c'est toi Julien ?» Je lui dis « Oui, c'est moi Julien. » Et elle me dit « À ce qui paraît, tu donnes des conseils de nutrition. » S'il vous plaît, ne venez pas me voir en me demandant des conseils de nutrition. Mais donc je lui dis que non, pas vraiment. Mais qu'il me semble que pour avoir une bonne santé, il suffit de, ou du moins il faut, ne pas manger trop de sucre, ne pas manger d'aliments transformés. Et puis on discute comme ça quelques minutes, et au bout d'un moment, elle comprend que je ne vais pas lui apporter de solution miracle. Et du coup, elle me regarde et elle me dit, oui, mais non, mais en fait, je sais ce qu'il faut faire. C'est juste que je ne le fais pas. Et c'est pareil pour le peuple dans le désert. Ils savaient ce qu'il fallait faire. C'était juste qu'ils ne l'ont pas fait. Toutes ces années, parce qu'ils ont été aussi incapables de le faire, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne pouvaient pas affronter les ennemis qui étaient devant eux. Ils étaient incapables de rentrer en terre promise 45 ans plus tôt. Ils ont été incapables de rentrer dans le repos que le Seigneur leur offrait gratuitement lorsque les espions ont exploré le peuple. Mais le Seigneur, dans sa grâce, leur a donné un certain Yeshua, un Josué. Et c'est Josué qui leur a permis d'entrer dans leur repos. C'est Josué qui a eu confiance en l'Éternel et qui a combattu pour eux les géants dont ils avaient si peur. C'est Josué qui les a fait rentrer sur la terre de la promesse et leur a préparé une place dans le royaume de leur repos, comme on l'a vu ce matin. C'est Josué qui s'est fortifié et qui a pris courage en se conformant à toute la loi de Moïse, comme nous avons vu au chapitre 1. Et lorsque les choses devenaient difficiles, qu'il était tenté d'abandonner, il a fait confiance en l'Éternel et a pu être victorieux sur ses ennemis. Et tout ce que le peuple a eu à faire, eh bien ça a été de suivre Josué, le serviteur de l'Éternel, de lui faire confiance et de marcher dans ses traces. Et aujourd'hui aussi, c'est un peu comme s'il y avait un désert et une terre promise. Mais là où pour le peuple d'Israël, c'était une réalité physique, pour nous, c'est une réalité spirituelle. Nous sommes nomades sur cette terre. Nous sommes, comme nous le dit Pierre dans sa première épître, des résidents temporaires dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde, c'est notre désert et nous sommes citoyens des cieux qui est notre promesse, notre terre promise à nous. Le problème, c'est que tout comme le peuple dans le désert était incapable d'entrer dans le repos, nous non plus, nous sommes incapables d'entrer dans notre terre promise à nous. Tout comme cette dame qui est venue me voir savait ce qu'elle devait faire et qu'elle ne l'a pas fait, nous non plus, nous n'arrivons pas à faire ce que l'Éternel nous demande. Nous savons ce qu'il nous demande, nous savons ce que nous devrions faire. Ce n'est pas un mystère, nous conformer à la loi de l'Éternel. Mais nous ne le faisons pas et nous n'y arrivons jamais parfaitement. C'est pourquoi Dieu le Père, dans sa grâce, nous a donné à nous aussi un autre Yeshua, un autre Josué, Jésus-Christ, le Messie, son Fils unique et notre Sauveur et notre Seigneur. Comme Josué l'avait fait pour le peuple, Jésus nous permet de faire ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Il nous permet de traverser notre Jourdain à nous et d'en ressortir de l'autre côté, sain et sauf. Il ouvre l'accès à notre terre promise à nous, le paradis, l'éternité avec lui, où nous pouvons et où nous pourrons expérimenter un repos sans fin. Comme Josué, Jésus nous prépare une place dans sa maison de repos, comme il nous le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Comme Josué, Jésus a combattu pour nous et a remporté la victoire sur son ennemi ultime, la mort. Comme Josué, Jésus s'est fortifié et a pris courage et il n'a pas abandonné lorsque le combat devenait intense et qu'il a été tenté de faire demi-tour. Voyez, Josué n'était pas l'homme parfait et le repos que Josué a donné au peuple sur la terre promise n'était pas le repos parfait, le repos ultime. Mais Jésus-Christ est le Josué parfait et il nous offre gratuitement, à travers sa mort et sa résurrection, un repos parfait et sans fin. Comme le pays promis que Josué a offert au peuple était un cadeau infiniment plus précieux que les rollers de Kevin, le repos que nous offre Dieu en Jésus-Christ est un repos infiniment plus précieux que celui qui a reçu le peuple dans le désert. En fait, ce repos que les Israélites ont reçu dans le désert n'était qu'une image pour parler du vrai repos qu'un jour le véritable Josué apporterait à son peuple. Comme Josué, Jésus a suivi la volonté de son Père jusqu'au bout. Mais pour Josué, suivre la volonté de Dieu, cela signifiait vivre, cela signifiait combattre ses ennemis terrestres, physiques. Alors que lorsque Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémané, qu'il se fortifie, qu'il n'abandonne pas sa mission et qu'il dit au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas la vie qu'il trouve en face de lui, mais la mort. Cette mort qu'il a dû subir à notre place afin de nous ouvrir la vie éternelle. Il a dû, on pourrait dire, traverser les eaux destructrices de la mort afin de vaincre l'ennemi ultime, la mort. Pour ressortir de l'autre côté de ses eaux, de l'autre côté de son Jourdain à lui, du bon côté, du côté de la terre promise, du côté de la vie éternelle. Et maintenant, grâce à son passage par ces eaux destructrices, grâce à sa mort et grâce à sa résurrection, le fait qu'il ressorte du bon côté de la vie éternelle, maintenant ces eaux destructrices sont arrêtées. Et nous pouvons le suivre. Nous pouvons marcher sur ses traces à pied sec et ressortir avec lui du côté de la vie éternelle, du côté de notre patrie céleste, du côté de la maison où il nous a préparé une place. Voici la promesse de Dieu pour nous. Son cadeau qu'il nous offre gratuitement. Notre terre promise, c'est la vie éternelle. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore accepté le cadeau que Jésus vous offre gratuitement. Je vous dirais, réfléchissez bien. Considérez le désert dans lequel nous trouvons. Est-ce qu'il répond vraiment aux plus profondes aspirations de votre cœur? Est-ce que vous vous sentez vraiment à la maison? Et comme le disait l'auteur irlandais C.S. Lewis, si vous trouvez dans votre cœur un désir que rien dans ce monde n'arrive à satisfaire, un vide qu'aucune expérience de ce monde ne peut combler parfaitement, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il existe plus que ce monde? Un autre monde dans lequel tout prendra son sens. Et pour celles et ceux qui ont accepté le cadeau,
qui ont traversé le Jourdain et qui sont ressortis avec Christ du bon côté. Pour ceux qui, en Christ, ont la vie éternelle, qui sont ressuscités et assis avec lui dans les lieux célestes. Pour vous, je dirais, ne faites pas comme Kevin. Et profitez de votre cadeau, tous les jours, en vous rappelant qu'en Christ, ce n'est pas une simple paire de rollers que vous avez reçue, mais la vie éternelle. Faites comme le peuple, suivez votre Josué, Jésus-Christ, marchez sur ses traces, écoutez-le et saisissez-vous des promesses de Dieu en vivant une vie qui l'honore et qui le glorifie. Je finirai en rappelant ce que disait Charles Spurgeon par rapport au fait d'expérimenter et de vivre les promesses de Dieu. Il comparait ces promesses à un fleuve et il disait « La plupart des chrétiens, quant au fleuve des promesses de Dieu, n'ont de l'eau que jusqu'aux chevilles. Quelques autres l'ont jusqu'aux genoux. Moins nombreux encore sont ceux qui avancent jusqu'à la taille. Mais combien rares sont ceux qui trouvent ce fleuve au-dessus de leur tête et dont ils ne peuvent plus toucher le fond. Alors, frères et sœurs, sautons, plongeons dans ce fleuve des promesses de Dieu et demeurons en Christ chaque jour qu'il nous donne de vivre ici-bas et pour l'éternité. Prions. Notre Père, notre Dieu, tu nous offres gratuitement la vie éternelle. Gratuit pour nous, parce que toi, tu as payé de par ta vie. Tu es mort à notre place et tu es ressuscité. Seigneur, donne-nous le bon sens de te suivre, d'accepter ce sacrifice que tu as fait pour nous gratuitement. Seigneur, nous comprenons bien que nous ne pouvons pas, par nos propres forces, respecter tout ce que tu nous demandes. Personne, aucun d'entre nous. Mais Seigneur, nous te glorifions pour cette bonne nouvelle que en Christ, tu as accompli toute la loi. Et maintenant, le paradis nous est offert gratuitement. Seigneur, je te prie tout particulièrement pour ceux qui n'ont pas encore accepté ce cadeau. Et je te prie que tu leur donnes de l'accepter. Et je te prie que tu leur donnes de voir au loin la terre promise et que tu leur donnes la force de traverser le Jourdain à pied sec, parce que tu y es passé. Seigneur, je te prie également pour chacun d'entre nous qui te connaissons, qui avons la vie éternelle en toi. Je te prie que tu nous donnes de garder les regards fixés sur toi, de demeurer en toi. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, et je te prie que tu nous donnes de simplement vivre la vie que tu as pour nous. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.